Le débat entre les anciens et les modernes a toujours existé dans le champ politique, vous l'avez rappelé là, mais dans le champ culturel, littéraire. La difficulté, c'est quand tout le monde se revendique moderne. Ça devient un problème. Et ces cons dits modernes, comme dirait Léo Ferré, finissent par s'épuiser eux-mêmes. La modernité, elle n'existe qu'en tension avec quelque chose d'autre. Donc, je dirais même pour soi-même et par rapport au reste, on a toujours une part de tradition et de conservatisme. Mais mon rapport à une tradition et une filiation, c'est en particulier sur le plan, là aussi, culturel, sur le plan des idées du pays. Je pense que la vision que j'ai de la France d'aujourd'hui n'est pas déconnectée de son histoire.
Bonjour et merci si vous nous rejoignez maintenant pour cette deuxième et dernière partie de la Grande Table. Un an après son élection, le nouveau monde voulu par le président Macron serait advenu. Pour le meilleur et pour le pire, certains en viendraient presque à regretter l'ancien. Alors quelle rupture, quel fondement? Invité pour en parler, Michel Crépu, écrivain, critique littéraire et rédacteur en chef de la Nouvelle Revue française, littéraire française. Pour son nouveau numéro, il a conduit un long entretien avec le président de la République sur son rapport avec la littérature. L'ancien directeur de la Revue des Deux Mondes fait par ailleurs paraître chez Gallimard un empêchement, ouvrage essai dans lequel le Penelope Gate est un prétexte à faire le tableau d'une époque désertée par l'histoire et la politique. Bonjour Michel Crépu.
Bonjour.
On va revenir sur cet entretien que vous avez notamment conduit avec Emmanuel Macron dans la Nouvelle Revue française. Entretien donc à lire dans ce numéro de mai. Dans un empêchement, votre essai, vous qualifiez les discours du président de jus de crâne macronien et sa personne d'adolescent surdoué, ayant l'air d'avoir fait ses études à Poudlard, clin d'œil à Harry Potter, plutôt que chez Ricoeur. Ce qui ne vous a visiblement pas rebuté, puisque pour la NRF, vous l'interrogez sur la longueur. Est-ce que sa parole vous a cette fois paru plus limpide que du jus de crâne ?
Très étrangement, elle m'a paru à la fois très claire et en même temps assez mystérieuse. D'où d'ailleurs la persistance dans mon appréhension de la chose du personnage de Harry Potter, qui est un personnage extrêmement intéressant, précisément pour cette raison.
D'être c'est un sorcier, Macron.
C'est un sorcier qui ne livre pas sa méthode, mais qui entretient avec la réalité des rapports d'une étrange abstraction, en même temps très précise, très rigoureuse. Donc il y a quelque chose à comprendre là, une sorte d'énigme à saisir, qui m'intéresse en tout cas.
Est-ce qu'il a juste des trucs, des recettes, un grand livre dans lequel qu'il ouvre de temps en temps et dans lequel il va piocher de quoi faire un tour de magie? Ou est-ce qu'il y a quand même vraiment un fond, un contenu, une matrice que vous avez réussi à percevoir dans cet entretien?
Oui, il n'y a pas qu'un discours de la compétence technique. Le discours de la compétence elle-même, elle est là, tout le monde le voit bien. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, le plus difficile à saisir, c'est ce qu'il y a derrière. Et donc quelque chose qui ne peut pas se résumer à une pure combinatoire de techniques d'appréhension de la réalité. Il y a autre chose. Je ne sais pas très bien quoi, mais il y a autre chose.
Vous avez dit qu'il n'aime pas expliquer finalement d'où il pense. Et il y a cette phrase dans cette interview, « Je hais l'exercice consistant à expliquer les leviers d'une décision ». C'est assez curieux. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas dire dans quel cadre se situerait son action, quel cadre intellectuel ?
D'abord, je ne suis pas là pour justifier...
Non, je vous demande ce que vous en pensez.
Mais oui, ça m'a frappé aussi sur le moment. Dans le contexte de la conversation, c'était une façon de dire... Je n'aime pas avoir expliqué une décision parce que ça voudrait dire que la décision a été mal prise.
Pourquoi ça ?
Parce qu'il y a un temps pour, selon lui, un temps pour préparer, réfléchir à la façon dont on va résoudre un problème, un temps de décision sur la manière dont on va le résoudre, et puis un troisième temps où on résout la chose. Donc quand on est au deuxième stade, voire au troisième stade de l'opération, il est trop tard pour dire « mais oui, non, mais je voulais pas dire ça, je voulais... » C'est ainsi que j'ai compris cette répartie à laquelle vous faites allusion.
Titre de ce grand entretien, « L'histoire redevient tragique », c'est qui rend le nouveau président de la République plutôt optimiste. Il faut quand même nous expliquer ce titre, Michel Crépu, un sens du tragique qui l'oppose, vous venez de le dire, à la politique technocratique, voire politicarde, ce sont ses mots. Mmh. Il va plutôt valoriser, lui, une politique des émotions, une réincarnation du monde dont le président est peut-être la tête.
Alors, sur le tragique et l'optimisme, là non plus, je ne prétends pas être le devin, enfin plutôt l'exégète de la parole présidentielle, je ne suis pas là pour ça, mais ce qui me paraît sensible dans ce propos, c'est la façon de mettre en rapport à la fois une situation actuelle de l'Europe qui, en effet, s'apprête et déjà d'ailleurs largement en train de vivre un nouveau mode de tragédie, et en même temps, ce qui n'est absolument pas contradictoire, une connivence avec l'expérience romanesque. L'expérience romanesque, c'est l'expérience de la contradiction. Je pense toujours à la phrase de Kundera qui définissait le roman comme une mise en suspens du jugement moral. On n'est plus ni dans le bien ni dans le mal, mais on est dans quelque chose qui est plus difficile à saisir. Ce caractère inédit de la situation européenne peut en effet avoir quelque chose de romanesque et en tout cas d'intéressant pour l'esprit. Donc c'est pas forcément source de dépression, au contraire.
L'Europe envers laquelle il a quand même eu des mots assez durs, ce vieux continent de petits bourgeois, de la part d'un Européen convaincu, prêt à relancer ce projet européen.
C'est assez... je pense que là aussi, c'est lié aux propos qui précèdent ou qui suivent, je ne sais plus, dans l'entretien, sur la manière dont les Européens s'apprête plus ou moins bien à vivre une réalité maintenant qui est vraiment la réalité de l'après-Seconde Guerre mondiale. L'Amérique n'est plus là pour protéger, pour prendre en charge des choses que l'Europe n'avait pas la force de prendre en charge. Il va bien falloir assumer un certain nombre de choses. Et là, il me semble que le propos de Macron est relativement clair, là aussi.
Oui, là, il prend quand même aussi un peu ses distances avec les pères fondateurs, avec ce qu'on s'est expliqué aussi hier, une vision plus delorienne de l'Europe. Ouais. Il y a une nouvelle voie, une troisième voie à inventer, à créer, et c'est aussi ce à quoi il veut participer.
Oui, en fait, je crois que... Comment dire, l'élection de Macron a coïncidé avec un effondrement. L'effondrement des vieilles armoires idéologiques, aussi bien celles de la gauche que celles de la droite, qui ne fonctionnent plus, ne remplissent plus en tout cas la fonction qu'elles avaient justement d'apporter un discours à la réalité, une prise en charge par un discours idéologique de la réalité, ça ne marche plus, c'est effondré. Et Macron se retrouve héritier ou dépositaire d'une situation totalement chaotique où les choses ne sont plus nommables comme elles l'étaient auparavant. On ne sait même pas comment s'appellent les ministres, enfin c'est tout à fait extraordinaire. Ça. Et donc on est dans une situation de ce type qu'il m'amuse, entre guillemets, de comparer avec la situation de Bonaparte après la campagne d'Italie, où c'est pas du tout une comparaison sur le despotisme, mais une comparaison sur la solitude de quelqu'un qui se retrouve en charge d'une situation qu'il n'avait peut-être pas envisagé d'avoir aussi vite.
On va y venir. Il y a quand même un double paradoxe, ou en tout cas un premier à souligner dans ce que vous venez d'évoquer, c'est que d'un côté, il vous dit les gens vous reconnaissent comme un des leurs si vous ne les vous si vous ne les prenez pas de haut. Voilà la manière dont il parle aussi des citoyens et de son rapport avec les Français, le peuple qu'il représente. Et en même temps, Antoine l'évoquait à l'instant, sur la méthode, il assume cette part parfois univoque, unilatérale de toute décision. Il dit haïr l'exercice consistant à expliquer les leviers d'une décision. Et au fond, il a une pratique très verticale du pouvoir.
La phrase, enfin, ou le propos où il dit qu'il faut pas mépriser les gens, quelque chose comme ça, est lié à un commentaire des funérailles de Johnny Hallyday, et de la difficulté qu'il a eue à ce moment-là à écrire le discours qu'il avait prévu de prononcer, qu'il a fini par prononcer d'ailleurs plus ou moins bien, enfin, parce que les sentait bien que la foule qui était là n'attendait pas forcément ça. Et c'est à partir de là que se développe ce propos sur la relation aux citoyens, aux gens à qui on s'adresse.
Il croit, lui, en l'autorité de la parole, en tout cas sa vision et sa définition de la modernité. On l'entendait en ouverture de cette émission, Michel Crépu. Quel est ce nouveau monde pour vous qu'il s'est bâti et qu'il a construit, lui aussi, sur l'effondrement de ces grandes familles idéologiques du 19e et du 20e, en faisant d'une certaine manière, en tout cas dans le discours table rase, parce qu'il a fait campagne là-dessus?
Oui, c'est paradoxal, c'est même contradictoire. Je suis étonné d'ailleurs que, ayant lu assez tardivement l'ouvrage Révolution, ce paradoxe ne soit pas aussi sensible, alors qu'il l'est vraiment. Je ne crois pas que pour l'instant, au point où on en est, il ait déjà construit quoi que ce soit. Il est plutôt dans la situation de quelqu'un qui sait qu'il doit construire des choses, parce que sinon, ça n'ira pas. Et donc, il y a une espèce de condition sine qua non, là, une injonction d'agir dans le champ de la... dans le champ de la société, de la politique, mais on est encore très loin du compte.
Oui, parce que vous dites que les discours, les armoires idéologiques anciennes se sont effondrées, puis il se retrouve lui-même à devoir prendre en charge la situation d'aujourd'hui avec un récit, un discours qu'il déploie. Est-ce que c'est pas lui finalement le discours? Est-ce que c'est pas ça le...
D'une certaine manière, pour l'instant, c'est lui. C'est aussi le côté bonapartien du personnage, qui en effet se retrouve. C'est la chose qui m'a le plus frappé durant cet entretien, en réalité, c'est sa solitude. Voilà, quelqu'un qui est conscient de tout ce dont nous venons de parler, et qui, en même temps, éprouve une forme de solitude quant à la manière dont les choses peuvent se mettre en route et en construction.
Mais est-ce qu'il y a quand même une pensée? Parce qu'on voit bien dans l'interview aussi qu'il y a des tas de références historiques. C'est pas du tout quelqu'un qui dit « je vais m'adapter à la situation, on va voir ce qui se passe ». Il est porté aussi par une histoire.
Aussi, ça, oui.
Bon, mais enfin, il parle des rois, il parle d'Henri IV, etc. Oui. On voit bien, et il parle de l'incarnation aussi du pouvoir. Donc on voit bien quand même qu'il se met en situation, d'une part, d'exister dans ce nouveau récit, et peut-être quand même aussi de développer un discours sur la France. Est-ce que ça se dessine?
Peut-être aussi, ce que vous dites est très juste, mais peut-être que Macron est conscient de la difficulté d'incarner, justement. Et c'est le côté Harry Potter. On est un peu dans l'impalpable et dans quelque chose qui n'arrive pas à prendre. Enfin, d'où d'ailleurs peut-être une certaine surenchère dans la rhétorique, très au point, très forte. La discussion avec Plenel et Bourdin l'a montré d'une façon cruelle pour Plenel et Bourdin. Enfin, bon. Et donc, je pense qu'il y a la conscience de ne pas arriver encore à fournir un discours qui prenne. Là, on est encore là dans des intentions, des visions, des diagnostics, des façons de parler de la situation, mais on n'est pas encore dans quelque chose qui pourrait faire qu'on se dise ça prend.
Mais a priori, quand on est un homme politique, on a une idée a priori. Ça vient pas tout seul, les idées, les visions de ce qu'est un pays, de ce qu'on veut faire. C'est ça qui est curieux. Vous pensez que ça peut venir?
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais je pense qu'il est très conscient. C'est l'impression qu'il m'a donnée, en tout cas, très conscient de à la fois l'impossibilité de faire machine arrière ou de recourir à de vieux discours, et en même temps qu'il faut construire un discours. J'allais même dire, il faut faire une idéologie. Le mot idéologie n'est pas un gros mot. Les philosophes allemands du 19e siècle le savaient très bien, et ils ont fait le travail. Mais c'est ce travail qui est à refaire. Là. On ne peut pas se contenter simplement, comme il le fait un peu, ou c'est beaucoup de ses ministres, d'un discours de la compétence qui viendrait se substituer à des concepts qui ne sont plus opérationnels. On est d'accord là-dessus. Mais la compétence seule ne peut pas servir de transcendantale. Voilà. Là, il y a un peu une oscillation, une hésitation chez lui là-dessus.
En même temps, il n'est pas tout seul, Emmanuel Macron. Il consulte énormément. Ça a été compliqué de l'obtenir, par exemple, cette interview pour vous ?
Absolument pas, non. Non, non, pas du tout.
Plaisir pour lui, de quoi ? Pour vous, à votre avis, de discuter de littérature, de discuter des liens entre littérature et politique ?
Écoutez, je ne sais pas pourquoi il a accepté, sinon que peut-être la NRF lui paraissait un bon endroit pour exprimer des choses qu'on ne peut pas exprimer ailleurs. Mais
Et pour vous, est-ce que c'était un bon endroit, la NRF, pour avoir cette parole politique ? Vous êtes, vous avez notamment critiqué, déploré la faillite intellectuelle de nombreuses revues françaises. Est-ce que vous pensez parvenir à redorer le blason des revues intellectuelles en y faisant entrer une parole politique aussi maîtrisée que celle d'un président ? Parce que c'est quand même un exercice sous contrôle.
Exercice sous contrôle, non, il n'y a pas eu de contrôle.
Le sien.
Il y a eu une relecture, mais pas de contrôle. La façon dont les choses se sont déroulées a été, j'étais même assez étonné de la simplicité avec laquelle ça s'est fait. Alors, est-ce que la NRF est l'endroit idéal pour ça ? À vrai dire, je me suis pas posé la question. Je suis tellement quelqu'un qui vit depuis si longtemps avec les revues, que c'est un peu pour moi une deuxième nature, si vous voulez. Enfin, et donc, ça me paraissait tout à fait évident que la NRF, qui a été le théâtre de tant de discussions, de tant de polémiques, de tant de considérations sur l'évolution de la société française, sur les années 30, encore on vient de lire la correspondance Paulhan-Drieux, qui édite par Claire Paulhan, par sa petite fille, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et qui fait partie de l'histoire de la NRF. Donc oui, bien sûr, j'étais ravi de pouvoir réaliser ça, oui, dans le cadre de la NRF, bien sûr.
Alors, il y avait une visée évidemment aussi littéraire, enfin d'exploration d'un univers littéraire du président.
Oui, bien
Qu'est-ce
sûr.
Qu'est-ce que ça donne selon vous ? Quel diagnostic ? Alors Gide, Camus, en même temps, comment on peut dire ?
Alors en fait, ce que je retiens, c'est l'importance de sa grand-mère qui lui a fait lire. C'est sa grand-mère qui l'a initié à la littérature. Et il y est revenu trois fois dans la discussion, et à chaque fois d'une façon étonnamment, je ne dirais pas émouvante, mais presque. Enfin, en tout cas, très sensible. Et cette personne, qui est décédée maintenant, évidemment, mais a eu pour lui un rôle d'initiatrice. Enfin, c'est elle qui lui a fait lire les écrivains. C'est elle qui l'a mis sur le chemin, plus que Ricoeur. Beaucoup plus que Ricoeur.
C'est sûr.
Je pense que ça explique aussi l'aspect, j'allais dire, agénérationnel du personnage. C'est le côté Harry Potter, toujours. On ne sait pas d'où il sort. Il sort de la cuisine de sa grand-mère qui lui fait lire Colette et Giono. Donc c'est quelque chose d'important qui est invisible, mais qui en réalité, je crois, est certainement la chose la plus prégnante en réalité dans sa façon d'être aujourd'hui. Mais je me trompe peut-être. Enfin, c'est pas du tout un ami intime ni un ami tout court d'ailleurs. Donc on s'est rencontrés une heure et demie. Voilà.
Je reviens juste à cette question du romanesque, puisque vous êtes sur les liens, Antoine, aussi entre littérature et politique. Mmh. Dans cet entretien, vous lui demandez le sens qu'il donne au mot romanesque, et vous l'évoquiez. Il vous répond une redécouverte du sens tragique. Pour lui, il y a du romanesque au cœur de l'aventure politique, et pour vous, qui en êtes aussi, au-delà de Emmanuel Macron, un fin observateur, et on va y revenir avec votre essai « Un empêchement », et c'est sur l'affaire Fillon, est-ce qu'il y a toujours une part de romanesque dans l'aventure politique ?
La réponse est oui. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'à la limite, on se pose la question.
Sinon quoi ? S'il n'y en avait pas ?
Ce serait très très embêtant. Parce
Pourquoi ?
Que alors là, pour le coup, on serait dans une situation de nihilisme avancé. Ce qui fait que nous ne sommes pas dans une situation de nihilisme, c'est précisément le fait que la littérature française, ou la littérature tout court, soit encore aujourd'hui aussi vive, aussi forte. Je fais attention, très attention à la NRF, à tout ce qui arrive, et je suis très très frappé par la qualité, le caractère aussi presque un peu invisible à l'œil nu de ce qui s'écrit. Il n'y a pas de grands maîtres, il n'y a pas de grands auteurs qu'on puisse consulter. La chose est maintenant totalement diffuse, mais elle est très très forte, très très forte. Donc voilà, c'est
Michel Crépieux. En quoi, pour vous, l'affaire Fillon, à laquelle vous consacrez donc un livre, est aujourd'hui une métaphore, peut-être parmi d'autres, ou peut-être la métaphore de l'effondrement du décor politique, comme dans un théâtre?
Parce que je me suis rendu compte, d'abord, j'avais absolument pas prévu d'écrire ce livre. J'étais occupé à tout à fait autre chose. Et puis, c'est la réponse d'Éric Woerth à une question qu'on lui posait sur le pourquoi de ce qui s'était passé, ce qui expliquait selon lui la déroute électorale. Et Woerth avait eu cette réponse étonnante. Il avait dit « on a été empêché ». Alors, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je me disais « oui, bien sûr, il a raison ». Ils ont été empêchés par qui, par quoi, du dehors, de l'intérieur, un accident, un ennemi, un complot, etc. Donc j'ai commencé à tirer le fil, ça m'excitait tout à coup de tirer ce fil, de savoir, de trouver une réponse à cet empêchement. Et puis en tirant le fil, je me suis rendu compte que j'étais en train, en fait, de m'intéresser à quelque chose de beaucoup plus intéressant que l'affaire Fillon qui est misérable, enfin, c'est le misérable petit tas de secrets dont parlait Malraux. Ça vaut pas la peine d'y passer beaucoup de temps. En revanche, en tirant le fil, je me suis rendu compte que j'étais en train de, malgré moi, enfin, de décrire une nouvelle époque, et que cette affaire avait coïncidé, en effet, avec un effondrement auquel on peut donner une signification plus ou moins grande. J'aime bien les grands décors, donc je serais assez porté à dire qu'on a effectivement vécu un double effondrement, et que Fillon, un peu à la façon de cet insecte rongeur dont on suit le parcours comme ça d'une armoire à l'autre, et qui d'un seul coup fait exploser la machine. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Sinon, je n'aurais pas écrit.
Mais on va tirer le fil quand même avec vous, Michel Crépieux. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h30, auteur de Un empêchement, et c'est sur l'affaire Fillon, un ouvrage qui paraît chez Gallimard. France Culture, il est 13h20.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Tout petit point de départ d'une affaire bien plus large à partir de laquelle vous avez tiré ce fil, Michel Crépieux, dans Empêchement, vous revenez sur le Penelope Gate qui vous a touché de près puisque vous étiez alors directeur de la revue des Deux Mondes. Dans cette affaire, la femme de François Fillon qui a collaboré ou qui aurait collaboré à la revue et dont on a révélé qu'elle aurait touché une rémunération de 100 000 euros pour quelques notes de lecture en un an, cette affaire a fait grand bruit. Je vous propose d'écouter la polémique résumée dans la voix d'une polémiste, Christine Angot, s'adressant directement à François Fillon. C'était l'an passé, en mars, dans l'émission politique.
Ce qui choque, c'est que vous vous soyez mis dans la situation, pour des costumes ou autre chose, d'avoir des services à rendre. Pareil pour la revue des Deux Mondes. Un ami, l'adret de la Charrière, offre à votre femme un salaire exorbitant. Vu la pratique dans ce domaine, que je connais quand même assez bien. C'est choquant. La revue des Deux Mondes, c'était tout un symbole. C'était un lieu à part, dédié à la littérature. L'idée qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. L'idée qu'il y a certaines choses qui comptent plus que l'argent.
Alors vous êtes revenu déjà, Michel Crépu, sur cette affaire. Vous êtes prononcé au moment du Penelope Gate. On vous a demandé si vous aviez connaissance ou pas de ces contributions de la femme du candidat. Et vous aviez répondu...
J'avais très peu de choses à dire, en fait. Parce que d'abord, je n'avais jamais rencontré Penelope Fillon.
Ni vu ni connu.
Ni vu ni connu. Et je savais, parce que Marc de la Charrière me l'avait demandé, qu'elle souhaitait... écrire des notes de lecture, ça oui, ça je savais, puisqu'on en a publié deux, mais j'ignorais complètement et naturellement les conditions financières dans lesquelles tout ça se faisait.
Mais ça vous secoue quand même un peu, Michel Crépu, vous qui vous définissez comme un catholique modéré, d'abord plutôt en termes d'affinité politique, au moment de la campagne présidentielle proche d'un François Fillon, avant que toutes ces affaires arrivent, quand, parce qu'il n'y a pas eu que le Penelope Gate, mais quand ces affaires arrivent, vous n'êtes pas indigné, vous êtes plutôt interloqué. Vous écrivez « Je m'en fiche de disposer d'une indignation légitime. Tout au long de cette affaire, je n'ai pas ressenti d'indignation, plutôt une forme d'étonnement. Comment peut-on se fourrer dans une mouise pareille ?»
J'ajouterais à ça aujourd'hui quelque chose qui m'est apparu dans le temps, pas sur le moment, mais dans le temps. C'est en fait un sentiment de grande tristesse à l'égard d'une revue qui avait été, qui avait servi d'arrangement. Et je ne supporte pas le cynisme à l'égard de la chose imprimée, si vous voulez. J'ai passé ma vie à travailler dans des revues, je dois tout au livre, je dois énormément aux revues dans lesquelles j'ai travaillé, comme Esprit au départ, et puis d'autres, la revue Autrement, la revue des Deux Mondes, aujourd'hui la NRF, avec laquelle je travaille, on est deux, avec Gaël Flamand, qui travaille avec moi, et on fait cette revue, donc...
Donc revue que vous avez depuis quittée, et on l'entend avec une certaine amertume quand même.
J'ai quitté la revue. Non pas à cause de ça. Il faut bien être clair aussi. C'était la suite d'une invitation amicale d'Antoine Gallimard
de rejoindre
bien avant cette histoire, bien des mois avant cette histoire, qui me demande un jour si j'étais tenté par le fait de venir travailler à la NRF. J'ai dit oui, parce que c'était une proposition merveilleuse, et je ne me voyais pas la refuser. Ça venait bien, ça venait un bon moment.
En quoi cette affaire, Michel Crépu, qui nous raconte l'effondrement politique d'un homme et d'un camp, d'un parti, est aussi pour vous cette métaphore de l'effondrement d'un monde? Quel monde a disparu durant cette longue séquence politique?
Eh bien, ce qui a disparu, ce qui, en tout cas, est ressorti extrêmement abîmé de cette histoire, c'est justement toute une culture politique dans laquelle j'ai baigné toutes ces dernières années en m'intéressant à Chateaubriand, notamment. Chateaubriand m'a énormément apporté ces 10 dernières années. Le livre, d'ailleurs, je cite une exergue de lui. Et c'est pas du tout pour moi un héritage muséal qui conviendrait de vénérer, auquel il faudrait dire attention, ne touchez pas. Pas du tout, au contraire, c'est une Silicon Valley, la réflexion politique française. C'est extraordinaire. Vous ouvrez Montesquieu à n'importe quel endroit, ou Chateaubriand, ou Tocqueville, ou d'autres, qui vous voulez. Vous êtes sidéré par la richesse et le peu de cas qu'on en fait aujourd'hui. Et c'est ça qui m'est apparu foncièrement abîmé, là. Et c'est très important et c'est très grave, parce que c'est ça, en réalité, qui fait exister une culture et qui fait exister une culture politique.
C'est-à-dire qu'on n'a plus de considération, vous dites, pour ça, on
le considère plus. C'est plus qu'un problème de considération. La considération, je m'en fiche. Encore une fois, on n'est pas dans un musée, il convient pas de s'incliner devant les grandes idoles. C'est pas du tout ça. En revanche, d'être irrigué, d'être en relation de veine avec un héritage philosophique, littéraire, politique. Alors ça c'est pour moi c'est la peste, en réalité.
Quelle est la marque de cette époque de n'avoir pas de signature, écrivez-vous? Il n'y a plus d'empreinte définissable aujourd'hui?
Oui, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, en gardant d'ailleurs à l'esprit l'exemple de la littérature, ou de la façon dont on parle de la littérature. Il existe encore, Dieu merci, des critiques qui font leur travail, mais je suis frappé par le fait que il n'y a plus vraiment de rendez-vous littéraire. Souvenez-vous du mercredi de Rinaldi dans l'Express il y a encore 15-20 ans, même encore un peu moins, puisque on s'est croisé à l'Express au tournant des années 2000.
Vous parlez aussi de la désertion d'une parole courageuse, vous dites aussi, ouais, que c'est la mort du débat en ce moment et de la conversation qui a porté, oui, oui, aux les idées précédemment, oui, qu'on vit dans un monde, oui, mathématisé de
la chiffres, de sondages. La conversation est effectivement quelque chose de très très important, parce que c'est la conversation qui a fait exister tout le 18e siècle français.
Mais vous parlez dans les médias, vous parlez dans la vie quotidienne, vous parlez dans la vie politique.
Un peu dans tous ces domaines. Là, je pense précisément la conversation en travaillant à la NRF et en travaillant dans la maison Gallimard, je m'aperçois à quel point la conversation de couloir, la conversation d'escalier est importante. Et que s'il n'y a plus cette espèce d'imprévisible du propos, tiens, j'ai lu ça, et puis finalement ça débouche sur un commentaire, une idée. Vous revenez dans votre bureau et vous vous dites, ben oui, tiens, en fait, c'est pas mal ça, cette perspective, etc. C'est ça la conversation.
Mais ça a disparu, ça.
C'est pas en bon état. Je ne trouve pas que ce soit en bon état. Voilà, j'ai de la chance dans la maison Gallimard d'en profiter, mais je suis pas sûr que ce soit le cas partout.
Sur la scène politique, vous dites que nous assistons à un pastiche déréglé de l'histoire de France. On a le sentiment quand même d'une France en déclin, à vous lire, d'une époque qui serait disparue. Qu'est-ce qu'il faut pour la faire réapparaître? Déjà, je ne sais pas si c'était vraiment mieux avant, mais est-ce qu'il faut un prophète?
Non. Enfin, prophète, c'est compliqué, un prophète. Il y en a de toutes sortes. Il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas.
Alors quoi, des idées?
Mais du désir. C'est le désir qui fait... La conversation, c'est quoi? C'est le plaisir qu'on trouve à parler d'un livre qu'on a lu la veille au soir et qui vous a fait rester éveillé jusqu'à 3h du matin. C'est ça. Et s'il n'y a plus ça, alors c'est pas la peine.
Vous parlez comme Macron, pessimisme face au nihilisme qui partout menace et qui conduit au cynisme, à l'absence de tout désir et de toute ambition.
Oui, ça c'est...
On peut vous rassembler, voilà, là-dessus.
On peut se rassembler là-dessus.
Apprenti sorcier, et peut-être que Poudlard se cherche un directeur, Michel Crépieux, en t'attendant. Merci beaucoup d'être passé autour de cette grande table. L'histoire redevient tragique. Une rencontre, un entretien, une interview donc avec Emmanuel Macron, paru dans le numéro de mai de la Nouvelle Revue Française, dont vous êtes l'un des responsables éditoriales aujourd'hui. Un empêchement, et c'est sur l'affaire Fillon, vient de paraître, c'est votre essai qui est chez Gallimard. Merci beaucoup à vous Michel Crépieux et à toute l'équipe de la Grande Table, à Claire Maillot, Jean-Christophe Brianchon, Clémence Marie qui ont programmé cette émission, à Maxime Morin et Henri Leblanc qui l'ont préparé, à Liana Valken et à Émile Boutelier qui nous ont aidés. Merci beaucoup à tous, et enfin à Perret Legras qui a réalisé cette émission avec Inès Debruyne.